Est-ce que vous pouvez décrire cette image, Karim Kahl?
Cette photographie, la mer à Fort de l'eau, c'est une photographie que j'ai prise en 2014 dans une petite ville en périphérie d'Alger. Au bord de l'eau, je regarde en direction de l'horizon de nuit et je photographie au flash avec une vitesse d'obturation assez élevée. Et le seul élément qui apparaît sur l'image, c'est l'élément qui est orienté vers la source lumineuse, vers le flash, vers l'objectif de l'appareil photo. Et il s'agit de l'écume et en fait, tout le paysage disparaît. On n'a plus qu'un trait d'écume en bas de l'image, donc une image verticale complètement obscure, noire, avec ce trait d'écume horizontal.
Et pourquoi depuis quelques années vous partez la nuit avec votre flash ?
Ça me permet de choisir ce que je montre et ce que je montre pas, de faire du tri comme ça dans le paysage urbain. Et puis ça me permet d'habiter des espaces qui sont connotés en fonction d'une mythologie parfois. Les quartiers populaires, je travaille principalement dans les quartiers populaires en France, en Algérie. Et ces espaces sont habités par une forme de mythologie liée à leur dangerosité, à leur infréquentabilité. Et les occuper de nuit, c'est une forme de décision volontaire. C'est m'affranchir d'un certain type de contraintes et puis de rentrer dans un espace poétique qui me semble puissant.
Vous voyez quoi sur cette image, Nasser Abelhaza ?
Alors moi, c'est étonnant parce que avant que Karim dise qu'il s'agissait de l'écume, je voyais. En fait, on est conditionné aussi par ce dans quoi on vit. Et moi, je vis beaucoup dans la pénombre et la lumière. Et donc, pour moi, c'était un fond de lumière dans un espace obscur. J'ai même une de mes pièces qui a absolument cette intensité-là de lumière au départ et à la fin. Et j'étais curieuse de savoir ce que tu allais répondre au sujet de pourquoi photographier le soir. Parce que moi, on me demande souvent pourquoi autant d'obscurité sur le plateau. J'ai jamais dit que c'était parce que je voulais montrer laisser voir uniquement ce que je décidais finalement de mettre sur le plateau. Mais c'est aussi parce que dans l'obscurité, pour moi, c'est un espace de résonance très fort de ce qui nous apparaît, et ça modifie aussi le mode de perception, c'est-à-dire qu'on va chercher autrement dans l'obscurité, on regarde, on perçoit autrement que dans la lumière. Et en dehors des indications du fait qu'il s'agisse de Fort de l'eau, que je connais bien, qui est en périphérie d'Alger, etc., pour moi c'est une image qui est totalement hors contexte. Elle aurait pu être prise n'importe où. Et en même temps, de savoir qu'il y a cette histoire derrière, parce qu'effectivement, Fort de l'eau, c'est une ville assez chargée, malgré tout. Et même si elle est au bord de mer, c'est pas une ville paisible. C'est toutes ces multiples lectures, alors que à l'origine, c'est peut-être une autre histoire. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce type d'image, c'est que vraiment, ça déploie l'imaginaire, finalement.
Et on était riche d'autre chose, hein. C'est-à-dire riche d'une vie de partage, riche d'abord de la mer, parce qu'il y avait les plages. Hein. La Bellouette possédait les plages, en quelque sorte. Hein. Tandis que dans les beaux quartiers, ou à Hydra, ou dans les quartiers des facultés, il fallait déjà partir à la plage. Tandis que nous avions la plage là, présente. Donc les gens de la Bellouette avaient cette extraordinaire richesse, et un peu magique aussi, parce que c'était une vie c'était un quartier qui avait un vital, qui avait une énergie, hein, qui avait des flux tout à fait stupéfiants, qu'on ne trouvait pas dans les quartiers riches.
Il est 23h et on ne voit rien avec les yeux. C'est ce que Nassera Belhaza a compris très vite quand la danse arrive intérieurement. Sa sœur Dalila, 5 ans de moins, la rejoint. Deux danseuses et un espace vide, ça devient les premières contraintes. À partir de là, creuser en soi. Sur le programme des pièces de Nassera Belhaza, on peut lire « Et s'il ne s'agissait pas d'assister à un spectacle, mais d'accepter une expérience ?» Elle invite à lâcher prise et surtout à lâcher cette envie absolue de voir. À accepter de ressentir et de voir petit à petit, dans le noir, à travers un corps qui tourne, qui traverse la lumière, voir ce qu'on n'a finalement jamais vu de sa vie, parce qu'on n'a jamais pris le temps. C'est le sentiment, dira sa sœur Dalila, que la vie est toujours en route. Nassera Belhaza ne crée pas pour les yeux mais pour la mémoire, comme elle dit. Elle ne cesse de chercher le mouvement qui nous fera voir mieux. Il faudrait aller à ses pièces comme à des leçons pour les yeux, ce serait une discipline obligatoire, des exercices du regard, pour enfin voir plus grand. Karim Khan, lui, photographie en France ou en Algérie le hors-champ. Des espaces oubliés, un bout d'escalier, un muret, des espaces réinvestis par quelques humains pour passer un moment, pour se retrouver. Il photographie aussi la nuit ou le bleu de la mer d'Alger, là où on regarde moins, là où il faut errer un peu pour se défaire des habitudes et sentir à nouveau que la vie est en route. Il y aura donc Nassera Belhaza, la chorégraphe vient de présenter à la MC 93 de Bobigny sa nouvelle création, Le Cercle, et la reprise de trois pièces, La Nuit, La Traversée et Sur le Fil. Elle part en tournée en mai à Bruxelles et elle sera à Nantes en décembre. Il y aura le photographe Karim Khal, il fait partie de l'exposition Photographier l'Algérie à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, jusqu'au 13 juillet. À la musique, en studio avec nous Mohamed Lamouri, son premier album s'appelle Underground High Love. Il sort le 26 avril et il sera en concert le 9 mai à Metz et le 12 juin à la Maroquinerie à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par l'évocation du danseur de buto Tatsumi Ijikata.
Je crois que Ijikata a dû connaître ce document et qu'il a été très impressionné et qu'il s'est fait ensuite peindre sa propre colonne vertébrale sur son dos. Et c'est aussi une façon de refuser que le mouvement soit imposé de l'extérieur au corps. Comme on fait des exercices à la barre classique et on apprend des pas et des enchaînements, là, la danse doit naître à l'intérieur du corps. C'est presque un remuement de cellules qui se produit à l'intérieur d'une façon infinitésimale et qui se propage dans tous les membres et qui finit par exploser, par sortir à l'extérieur parce qu'on ne peut plus le contenir. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la danse commence, après le silence et après l'immobilité.
Nassera Belhaza, à quel point la danse, elle a été pour vous au tout début intérieure, avant même que le corps s'en mêle ?
Alors au début, ça a été un appel assez fort qui s'est évidemment manifesté dans le corps, mais j'ai eu la chance de ne pas pouvoir la pratiquer comme je le souhaitais, c'est-à-dire que mes parents ont refusé de m'inscrire évidemment à des cours de danse. Ils n'étaient pas venus en France pour que je danse, mais pour qu'on étudie. Et du coup, on avait très peu la possibilité finalement de sortir, même en dehors d'aller à l'école. Et cet espace clos, confronté à un désir de liberté très grand, fait qu'à un moment donné, je me suis évidemment, ça a indiqué cet endroit au dedans, où je me suis dit que finalement la liberté, elle n'était pas à l'extérieur de moi. J'ai été un peu aidée avec, par la littérature quand même. J'ai fait des études de lettres qui m'avaient aiguillée dans ce sens, c'est-à-dire que la liberté se passe au dedans et pas forcément l'agitation extérieure. Et puis c'est surtout la seule alternative que j'avais à mes yeux, c'est-à-dire de me dire bon, ben, je vais pas me cogner au barreau, quoi. Je vais creuser à l'intérieur. Et à partir de là, je pense que j'ai vraiment tout centré, tout ancré au-dedans, et puis ce qui se produit dans le corps ensuite ne devenait qu'une émanation de ce qui vit au-dedans.
Et vous dites une chance, c'est une chance de ne pas avoir finalement été à l'école de danse ?
Aujourd'hui, je dis que c'est une chance. À cette époque, je pense que je le vivais de manière... voilà, ça devait être une grande frustration, mais c'est ça un chemin de vie, hein. C'est de réaliser que finalement, si j'avais eu entre les mains les mêmes outils que les autres, j'aurais peut-être fait la même chose que les autres, et que les contraintes fortes qui m'ont été posées m'ont obligé à trouver mon propre chemin, et aujourd'hui, je dois dire que j'arrive pas à imaginer un autre parcours que celui-là, d'avoir trouvé ces outils, de m'être questionnée un peu à l'aveugle comme ça, sans savoir, sans avoir aucun repère, point de comparaison, ça m'a évidemment fait faire un chemin que j'aurais pas fait autrement.
Et très vite, c'était aussi en lien avec l'autre et avec votre sœur.
Oui, ma sœur était là, elle a commencé donc à travailler en même temps, puisqu'on était cohabité dans la même chambre, donc elle a commencé à travailler avec moi dès le début. Et je me souviens que dès le début, je posais des contraintes d'écriture, de dialogue avec le spectateur, de comment être en face de l'autre sans être en représentation. Tout ça, ça a commencé là. Ensuite, ça s'est poursuivi au collège, dans la salle de spectacle, et au lycée, dans la salle de spectacle, au Crous, à la fac. Toujours un peu de manière clandestine et parallèle. Et puis un jour, je ne pouvais plus continuer à entretenir cette double vie, donc à un moment donné, il a fallu en faire qu'une. Mais effectivement, ces espaces qui ne sont pas des espaces de danse...
Il fallait pousser les meubles, il fallait réinventer un espace.
Il fallait habiter des espaces... parce que je dis souvent qu'un enfant qu'on emmène dans un studio de danse, on lui donne l'espace suffisant pour ouvrir les bras, on lui donne l'espace suffisant pour courir, pour sauter, etc. Mais quand on n'a pas cet espace, comment on fait Et en fait, très vite, ça m'a fait comprendre que ce qui se passe dans le corps n'est pas synonyme de liberté. C'est la manière dont on le vit du dedans, dont on l'habite, qui pour moi est vraiment source de liberté, et pas l'ensemble des mouvements, des possibilités purement physiques. Donc il y a ça, et puis ça développe une certaine dextérité aussi, hein, de travailler sur 2 mètres carrés quand il faut. Donc il y a une conscience tout de suite de l'espace, et puis on crée une équivalence entre un espace réduit doit devenir synonyme d'un espace infini. Ça, c'est passionnant de travailler très vite dans ça. Je me dis, je suis dans un petit espace, mais je ne dois pas me laisser enfermer dans cet espace. Bah, ça pose des contraintes très fortes qui après sont restées, même quand j'avais de l'espace et que j'étais sur le plateau. D'ailleurs, le cri, c'est une pièce où on est sur place... On fait le même mouvement pendant 50 minutes. C'est la pièce que j'ai faite en 2008. Et on aurait pu crier au gaspillage d'espace parce qu'il y a 20 mètres de plateau autour. Et puis en réalité, ça m'a très vite aussi fait comprendre que danser, enfin c'est ma définition, hein, je pense que je la partage avec d'autres, c'est animer l'espace, donner une âme à l'espace. Donc en fait, mon corps ne me sert à rien pour si je gambade dans l'espace. Il me faut... convoquer une certaine conscience, une certaine présence qui va pouvoir remplir cet espace. Donc tout ça vient de cette contrainte très forte, effectivement, au départ, qui fait que j'avais pas d'espace de liberté extérieure.
Et vous parlez du cri, c'est une pièce de 2008. Il y en a eu plusieurs avant. Pourquoi vous dites que ça aurait dû être la première ?
Je pense qu'avant, on forge un petit peu... Voilà, il y a plusieurs moments, il y a eu tout le moment où j'étais... collège, lycée, à la fac, où c'était vraiment les premiers essais, c'était encore une forme de d'exutoire. Alors ensuite, il y a eu le moment où je suis entrée en scène nationale, et là, j'ai senti qu'il fallait que je concentre un petit peu les choses, mais j'étais encore moi-même, en tant qu'individu, chargée, enfermée dans... murée de plein de façons, et il y a tout un travail, surtout quand on vient de la... Enfin, d'où qu'on vienne, hein. On est obligé de faire ce travail de se libérer, de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Et une fois qu'on s'est libéré, je dirais que c'est seulement là qu'on commence à comprendre ce qu'on est en train de dire, quelles paroles on a envie de porter, etc. Et moi, je pense que ça s'est cristallisé au moment du cri en 2008, et qu'avant, il y a eu des pièces, mais c'était des pièces où encore chargée par... même si je n'ai pas subi d'influence au niveau chorégraphique, j'ai quand même entendu des choses. J'entendais des gens dire que chorégraphier, c'était occuper l'espace, c'était faire du mouvement. Donc il y a eu cette confusion qui n'a pas duré longtemps chez moi, mais... Et cet acte radical du cri de dire, bon, voilà, c'est rien tout ça, la chorégraphie, c'est ce qu'on décide de faire dans l'instant, dans l'espace, et ça peut prendre toutes les formes possibles. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment inscrit voilà, une structure dans mon travail très claire, et toutes les pièces qui sont venues après le cri, pour moi, sont effectivement d'une autre... racontent une autre histoire.
Et le titre, il n'est pas anodin ?
Non, pas anodin, absolument. Souvent, la première pièce, c'est un cri. Et après, il faut continuer à crier. Sinon, si ça s'épuise, on n'a plus grand-chose à dire. Mais c'est à ce moment-là où je pense que j'étais assez libre pour pouvoir laisser échapper ce type de choses. Avant, je pense qu'on est fait du contexte dans lequel on vit, de la culture, etc. Il a fallu que je me dissocie de mon instrument. C'est-à-dire, mon corps, c'est moi, mais c'est aussi mon instrument. Donc, il a fallu tirer tout ça au clair, comprendre comment mon instrument pouvait être, une partie de moi, mais en même temps être bien plus que ce que je suis. Et tout ça, ça prend des années. Donc la danse, c'est vraiment pas un art pour tous les arts, d'ailleurs, qu'on peut pratiquer comme ça dans la étant jeune, avec énergie, vigueur et volonté. Mais c'est vraiment le fruit d'une introspection très longue, je crois.
Quand on lit Nasser Abelhaza entre deux rives, qui est paru chez Actes Sud par Frédéric Villemur, elle écrit « Nasser Abelhaza danse pour disparaître ». Ça, c'est apparu quand
cette envie de disparaître ?
Ouais.
Alors, le cheminement, c'est aussi, pour moi, ça a été beaucoup de recherches, donc des fouilles pour essayer de comprendre des choses, pour essayer de vérifier des choses, etc. etc. Et une des choses que j'ai découvert, donc je parlais de l'espace tout à l'heure, mais c'est que plus l'être humain s'affirme physiquement dans ce qu'il est, dans un espace, plus il est petit. Plus il enlève ces limites-là, il se fond à quelque chose de plus grand que lui, et plus il gagne des dimensions voilà, hors du commun. Et pour l'avoir au départ peut-être vécu par accident, même si j'y aspirais, petit à petit, c'est devenu très clair. D'ailleurs, j'ai passé l'après-midi et à travailler avec des danseurs là-dessus, comment décloisonner l'être au-delà du corps, au-delà de ses propres représentations, de ses propres schémas, pour à un moment donné vraiment faire qui se déploie, qui déborde en fait. Et ça, pour arriver à ça, il faut procéder à une forme d'effacement. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la personnalité de surface qu'on construit, qui lie un contexte, un mode de vie, un caractère, etc., qui pour moi, je trouve, n'intéresse personne sur un plateau. Et puis il y a ce qu'on pourrait nommer le moi profond, qui lui est en résonance avec l'autre. Et pour moi, il est très important d'arriver à effacer cette personnalité de surface accidentelle pour pouvoir laisser émaner l'être profond. Alors ça sonne un peu mystique comme ça, mais c'est vraiment de la pure mécanique. Donc l'effacement c'est pas une négation de soi, c'est se fondre, se confondre à quelque chose de plus grand.
On va écouter la voix de Pascal Quignard.
C'est une pâleur. Grise, un peu brune, qui n'a rien de celle de quand l'aurore va éveiller, quand il n'y a pas le moindre rayon de soleil. Le soleil est de l'autre côté de l'horizon, il n'est pas encore apparu, mais ça n'est plus la nuit. La nuit semble, dans ce cas-là, en effet, s'allumer. Non pas s'éteindre, mais s'allumer. Il y a une espèce de proche, peut-être, de cette chose merveilleuse qui est la lumière qu'il y a au fond de l'eau. Il y a une lumière au fond de l'eau. Je ne sais pas par quelle réverbération comme ça elle se produit, mais il y a une lumière au fond des eaux. Oui. De toute façon, la vie a commencé d'abord dans l'océan. D'abord, il y a eu. Moi, lorsqu'on s'approche de la mer, au plus proche des vagues, jusqu'à leur vacarme, et que on est là sur ce qu'on appelle le chemin de Dieu, c'est-à-dire là où l'eau a mouillé la berge, mais où personne n'a encore marché, et qu'on regarde la vague, elle était là bien avant nous. Elle continue d'avancer, de se retirer. Il n'y a aucune espèce d'âge pour la vague, pour la pulsion, si on peut dire, de la vague. Il n'y avait aucune oreille pour l'entendre. De même qu'il n'y avait aucun regard pour le soleil qui pouvait l'éclairer. Ça, ce sont des choses qui me médusent à chaque fois que je m'approche de quelque chose comme l'élément.
On a commencé avec la vague de Karim Kahl, et on poursuit dans l'eau, la lumière, le noir. J'aimais bien qu'il parle de l'eau, ça me faisait penser, Nasser Abelhaza, au mouvement de la nature qui n'ont ni début ni fin, dont vous parlez et qui vous inspire pour la recherche d'un mouvement de l'être humain sur la scène.
Oui, m'inspire pas de manière aussi directe, c'est dans le sens où je suis fascinée surtout par le rapport qu'on entretient aussi à ces mouvements dans la nature. De voir comment on peut être face à la mer et la regarder fixement pendant longtemps, alors qu'effectivement ça n'a ni début ni fin, qu'il n'y a pas de récit, etc. Qu'est-ce qu'on contemple finalement face à ça? Et j'ai toujours rêvé de mettre le spectateur dans cet état-là, en fait, au plateau, plutôt que de raconter une histoire que j'aurais délimitée, que j'aurais envie de raconter. C'est de le mettre dans ce même état de contemplation profondément serein et on se rend compte que là, enfin, quand on regarde la mer, en réalité, on contemple, je l'ai souvent dit, mais on contemple son paysage intérieur, on contemple les résonances que ça provoque chez soi, ses propres sensations, ses propres émotions. Et il s'effectue un lien comme ça, très fort de communion entre l'élément à l'extérieur de soi et puis ce que ça provoque en soi. Et effectivement, je rêve souvent de mouvements comme cela. Ensuite, il ne faut évidemment pas tenter de transposer des choses. Après, c'est comment repartir d'une autre matière, d'un corps, d'un plateau avec ses contraintes, d'un public avec ses habitudes pour pouvoir défaire à nouveau tout ça et reconstruire sur... reconstruire un nouveau rapport. C'est pour ça que le public réagit souvent à la pénombre qu'il y a dans mes pièces, mais parce que le plateau, pour moi, c'est pas censé être l'endroit où on montre des choses, où on voit. C'est un mélange de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, des autres sens. Tout est activé, c'est pas seulement la vue qui se pose sur tel ou tel corps en mouvement. Et arriver à provoquer cet ensemble de transformations, que ce soit chez l'interprète ou chez le spectateur, effectivement, on se rend compte que c'est des phénomènes naturels qui se produiraient de façon naturelle dans la vie, mais que sur le plateau, dans un théâtre, quand on y va avec un autre type d'attente et on est presque à l'envers de la vie, quoi. Et puis même les interprètes sur le plateau, souvent, tout est inversé. Et retrouver ce naturel, retrouver cette façon de se relier aux éléments, même si c'est un espace, un plateau noir autour, je trouve que ça met dans un rapport où on n'attend plus rien. Et curieusement, quand on n'attend plus rien, le micro-événement devient, péripétie devient un événement colossal qui nous remplit. Alors que quand on est toujours dans cette attente de voir, de comprendre, on est en permanence comme ça, il me semble, c'est ma petite analyse, mais qu'on est en permanence dans l'attente d'être comme si on retardait on posait des conditions à cette satisfaction. C'est-à-dire j'attends de comprendre, j'attends de savoir, j'attends de sentir, etc. Alors que c'est déjà là.
Et je vous citais Nasser Abelhaza au début de l'émission, je ne crée pas pour les yeux mais pour la mémoire. Ces trois pièces que vous avez reprises, La Nuit, La Traversée et Sur le Fil à la MC 93, le fait même que chacune travaille sur la mémoire du spectateur, mais que c'est aussi la mémoire de votre travail, qu'est-ce que ça modifie le temps et le fait de les revoir, de les rejouer aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent?
Quand je dis que je ne crée pas pour les yeux, c'est parce que Finalement, quand on regarde un spectacle, on pense qu'il s'est produit, on mesure et on évalue ce qui s'est produit à la somme, finalement, de mouvements ou de déplacements ou de nombre de corps, etc. Et pour moi, ce qui se passe, c'est bien au-delà. Ce qu'on perçoit dans le corps, c'est presque la partie visible, voilà, mais d'un mouvement beaucoup plus ample, qui est certes pas perceptible à l'œil, mais qu'on perçoit de plein d'autres manières. Et je me rends compte que quand on se laisse faire à cet endroit-là, en tant que spectateur, il y a des choses qui s'impriment très profondément et qui, longtemps après, continuent à vivre en nous et qui n'ont rien de, enfin, qui ne sont pas du tout proportionnelles à ce qu'on a cru voir. Je parlais du cri tout à l'heure, un seul mouvement qui monte en 50 minutes, mais en réalité, dans ce mouvement, nous, on doit intégrer une infinité de mouvements. Donc tous les mouvements doivent être perçu autrement que par les yeux à l'intérieur de ce mouvement. On est au même endroit, mais on doit créer une équivalence entre le fait d'être ici et d'être partout. Et d'ailleurs, la vidéo aussi, elle restitue pas le travail de ce point de vue-là. C'est que si on mesure le mouvement, on se dit, il y a un seul mouvement, il se répète pendant 50 minutes et il est au même endroit. Sauf qu'en réalité, la mécanique est beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'on déploie, la manière dont on structure, les mises en tension, etc., qui font que c'est bien sûr que rester sur place et faire un seul mouvement, ça peut paraître simple, quoique. Mais en plus, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, à l'intérieur d'un seul mouvement, trouver l'infini, etc. Et ça, on se rend compte que ça s'imprime à d'autres niveaux, sur la mémoire profonde, plutôt que dans l'œil. Ça m'est arrivé souvent que des spectateurs comme ça... qui réagissent tout de suite en disant il y a un seul mouvement ou il y a une seule chose qui se passe et puis recroiser longtemps après et puis il y a le travail de la mémoire qui s'effectue entre temps, on recompose et tous les espaces de résonance, tout ce qui travaille comme ça de manière plus invisible qui fait qu'on mesure qu'il s'est passé autre chose. Vraiment la perception c'est comme un espace de résonance et il y a tellement de choses qui nous atteignent et qui nous percutent au moment de la rencontre avec une œuvre que on n'est pas du tout en mesure de dire ce qui s'est clairement passé, surtout si cette œuvre elle est un tant soit peu complexe et qu'elle a différents niveaux de compréhension.
Et l'espace se modifie aussi dans le solo La Nuit. C'est vrai que l'espace est délimité par la lumière et puis par ce corps qui tourne et petit à petit quand la lumière change ou c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'espace semble infini et on a l'impression d'y être dans cet endroit où c'est plus grand que nous et en même temps on est là très présent.
Je sais plus si c'était un journaliste qui m'avait dit ça, mais effectivement c'est chercher l'infini, chercher une forme d'éternité à l'intérieur du mouvement et il existe cet endroit, c'est pas quelque chose dont on rêve comme ça, c'est encore une fois quand on atteint certains espaces au niveau du mental, au niveau du corps, de l'émotionnel, toutes les sphères comme ça de l'être et qu'on les désamorce, on se rend compte que tout peut durer. Mais vraiment, c'est de la pure mécanique. Et une fois qu'on a désamorcé ça et que tout peut durer pour l'interprète, alors tout peut durer pour le spectateur. Et je trouve ça fantastique de pouvoir créer cette bascule et de ne plus rien attendre. Voilà, c'est encore c'est vraiment une des choses qui revient souvent, mais je trouve que ce qui nous déforme ou ce qui nous fait souvent ne pas rencontrer la chose, c'est nos propres attentes.
Mohamed Lamouri sort son premier album. Depuis 2003, vous pouvez le croiser et l'entendre jouer dans une rame de la ligne 2 du métro à Paris. Il y a passé à peu près 20 000 heures, son synthétiseur sur l'épaule. Il sait jouer toutes les chansons de Likon Raïcheb Asni, mais il s'est mis à composer aussi, souvent à partir d'improvisations au fil des voyages, d'un bout à l'autre de Paris. Le premier morceau s'appelle « Anna Rani, moi je suis ». Thank you.
Du 3 octobre 1955 est à marquer d'une pierre blanche dans la lutte engagée par la municipalité d'Alger contre le taudis et en faveur du logement. Pierre blanche, certes, et même innombrables pierres blanches qui s'érigent désormais sur les hauteurs du Clos Salambier à Alger face à l'immensité marine pour accueillir 1500 foyers, 1500 familles qui vont connaître le bonheur de vivre dans une cité merveilleuse, Diyar el-Massoul, la cité de la promesse réalisée. Après avoir rendu hommage à l'architecte Fernand Pouillon et à tous ceux qui crurent en cette grande œuvre, M. Jacques Chevalier cite Saint-Exupéry, qui disait des hommes « Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères ». Le député-maire d'Alger ajoute « Faisons bâtir aux gens de ce pays beaucoup de tours et beaucoup de cités ». Et il enchaîne
« Faisons les leurs bâtir ensemble et la grande cité, la vraie cité pacifique et fraternelle dont nous rêvons, s'édifiera alors d'elle-même. Cette cité témoignage encore aussi de l'égalité des hommes de ce pays. Cette cité n'a pas été édifiée seulement pour quelques-uns. Elle est la cité de tous, où mélangées, familles européennes et familles musulmanes cohabiteront dans la paix et dans la joie. Car la municipalité d'Alger n'est pas la municipalité de quelques-uns, elle est la municipalité de tous. Les complexes raciaux et l'esprit de ségrégation ne sauraient inspirer ni entacher son action et ses décisions. Cela peut déplaire à beaucoup, peu importe. Il leur en faut en prendre leur parti. Et si leur cœur s'y refuse, que leur intérêt au moins les commande, l'unité et l'indivisibilité de la nation, l'unité et l'indivisibilité française sont à ce prix.
Karine Kahl, ces cités qui étaient promises à la paix, à la joie, au bonheur, vous les avez photographiées à Alger. C'est une série qui s'appelle Cité d'urgence. Qu'est-ce qui vous amène dans ces lieux-là? Vous parliez tout à l'heure des périphéries, des endroits peut-être oubliés ou en tout cas invisibles.
Alors je connais ces quartiers depuis quelques années, mais en janvier 2006, quand je vais réaliser une série d'images qui s'appelle Cité d'urgence, donc où j'ai photographié les cinq grands ensembles qui ont été réalisés par la mairie Chevalier pendant la guerre d'Algérie. Donc il faut bien préciser que on entendait une intervention qui datait de 55. La guerre d'Algérie a été déclenchée en 54. Ces constructions se font comme leur nom l'indique, dans l'urgence, pour reloger les Algériens qui vivent dans des bidonvilles, qui sont très nombreux à Alger, et aplanir un petit peu les disparités sociales qui sont le ferment, évidemment le corps politique a compris ça, donc qui sont le ferment de la révolte qui a commencé. Et du coup ce sont des grands ensembles, c'est du logement social, mais qui sont à visée stratégique, militaire, on pourrait dire. Et moi, je vais réaliser ces images parce que, donc, en janvier 2006, on est quelques semaines après les émeutes en banlieue, qui ont reçu une couverture médiatique, photographique, particulièrement assez particulière, avec énormément d'images de nuit, des incendies sur fond de quartiers populaires, de grands ensembles d'immeubles aux caractéristiques géométriques assez simples. Et on a une iconographie comme ça qui a dominé la presse à ce moment-là, et qui me semblait absolument inappropriée pour traiter de questions de société. Les émeutes de 2005, c'est un temps fort de notre vie collective, mais c'est absolument pas un moment qui était à représenter de cette manière. Voilà, des images qui étaient des images extrêmement dramatisantes, et presque des images de guerre, qui me faisaient penser aux images qu'on a vues au début des années 2000, pendant les bombardements de Bagdad, la prise de Bagdad par les Américains, où on voyait énormément d'images de nuit, avec des incendies comme ça, sur fond d'immeubles de centre-ville. Et donc il y avait des correspondances photographiques, voilà, qui m'ont interpellé. Et je connaissais l'histoire de ces quartiers à Alger, ces cités d'urgence, et donc j'ai décidé d'aller réaliser une série d'images en reprenant cette iconographie, qui était une iconographie de l'événement, de la guerre, et qui me permettait de m'affranchir d'une espèce de constat contemporain. L'idée c'était de réaliser des images d'histoire de ces grands ensembles et donc essayer de reconvoquer le contexte de création de ces cités. Donc là, on parle de Dir El Massoul. Et pour la petite histoire, il est dit que les Européens devaient vivre avec les Algériens, c'est pas tout à fait vrai en fait. Il y avait une partie de la cité qui était dédiée aux musulmans et l'autre partie aux Européens, avec une route typiquement pour Dir El Massoul, avec une route qui sépare les deux ensembles.
Il y a quelques détails qui ne sont pas tout à fait vrais, de toute façon, dans ce discours.
J'ai l'impression.
Karim Kahl, vous parlez des représentations, justement, dans différents endroits. Vous, la représentation que vous aviez d'Alger, avant d'y aller, de mieux connaître, vers la fin des années 90, c'était quoi et quelles images vous avez eu envie de faire là-bas, qui étaient peut-être différentes, justement, de ce que vous aviez l'habitude de voir, d'entendre?
Alors j'avais des souvenirs d'enfance, mais des images j'en avais pas vraiment, hormis les images de presse qui circulaient dans les médias français particulièrement, et qui étaient pour la plupart dans les années 90 liées à la guerre civile, au terrorisme, aux atrocités auxquelles étaient confrontés les Algériens. Et j'ai l'opportunité d'aller à Alger en 97. Et j'ai une méconnaissance assez profonde de ce qu'est la réalité des Algériens, de leur quotidien, de leurs aspirations, de leurs attentes. Et j'ai la chance d'avoir de la famille à Alger, à Bab El Oued particulièrement. Et donc j'arrive à Alger comme ça, très neuf, très. Et je me rends compte que les gens de ma génération, mes cousins, leurs amis, leurs proches. Eux, ils ont une idée assez précise de ce qu'est mon existence en France. Et du coup, j'ai une espèce de bascule qui est assez fondatrice pour moi en tant que photographe. C'est que je réalise que finalement, vivant dans une société qui est saturée de représentations, de médias, avec une presse libre, et ben finalement, j'ai une méconnaissance assez profonde de toute une partie du monde. Alors que quand on vient de cette partie du monde, et ben on a une connaissance assez pointue, assez aiguë du reste, un effet de renversement extraordinaire. Donc moi, je rentrais aux Beaux-Arts, ça a été très important comme sentiment, comme sensation. Et voilà, donc j'étais assez ouvert et c'était un pays qui était en pleine guerre civile et moi, je prenais du plaisir à y aller, quoi. Hein. J'étais absolument pas dans des milieux préservés, hein, des réalités, mais... voilà, j'étais un petit peu nourri des valeurs, de la culture, de la qualité relationnelle des gens, ce regard aiguisé sur le monde. Tout ça, en tant que jeune adulte, à 18-19 ans, voilà, m'a amené à me construire.
Et les images que vous faites d'Alger en 2002, quelques années après, sont des images de plutôt apaisées. Ce sont des images... de la vue depuis Bab El Oued, de la mer, de l'horizon. Là, il y a beaucoup de bleu. Là, il fait jour. C'est pas des images de nuit.
Alors plutôt apaisé, en tout cas assez silencieuse. Donc j'ai mûri quelques temps ces images et puis un jour voilà j'ai décidé, j'avais les images en tête et je suis parti pour les réaliser. J'ai été assez frappé par la pudeur des Algérois face aux difficultés qui traversaient. Assez frappé, assez bouleversé, hein. Ça a été une grande leçon, et la pudeur, et puis leur capacité, j'étais jamais allé dans un pays en guerre, leur capacité à continuer à vivre malgré les difficultés, et ça c'est absolument sidérant. Et j'ai eu envie de produire des images qui soient des images silencieuses, pudiques finalement, j'ai eu envie de produire des images qui ne bavardaient pas des réalités que je comprenais de manière extrêmement partielle, de toute façon. Et j'ai donc réalisé ces images qui sont un petit peu le point de vue que portent les Algérois, parce que la mer est très présente à Alger, la ville est construite sur des collines, face à la mer, en direction du nord, en direction de l'Europe, il y a une espèce de regard qui se porte plusieurs fois par jour, comme ça, sur la ligne d'horizon. Et élément très minimal, voilà, ce trait de bleu sur bleu finalement, représentait un petit peu ce que j'avais envie de peu raconter finalement de l'Algérie de l'époque.
Et cette phrase de Yasmina Khadra, je regarde Alger et Alger regarde la mer.
Ouais, mmh. Elle est absolument, je l'ai en tête, ouais, bien sûr. Et alors, j'ai eu l'occasion de montrer ce travail dans une exposition dès 2003 et l'idée assez vite, ça a été de produire une pile d'affiches, donc d'imprimer une composition de 4 de ces images, de l'imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires et le proposer à disposition du public, des visiteurs de l'exposition. Et l'idée étant de continuer à faire circuler ce regard porté sur l'ailleurs. Et l'idée aussi de ces images à l'origine, qui étaient quand même en contrepoint des images de presse, et en opposition presque, et ben donc on reproduisait une espèce de dispositif de diffusion médiatique de la main à la main, un peu archaïque.
Il y a une série aussi qui s'appelle Station, qui a existé dans plusieurs endroits et qui s'intéresse dans l'espace urbain à des lieux a priori anodins, mais qui ont été réhabités, réinventés, en tout cas par des gens qui soit parce qu'ils se posent là sur un muret, parce qu'ils ont tagué un mur, et il y a certaines de ces photos qui sont prises en Algérie. Qu'est-ce que ça raconte ces lieux qui n'en sont pas en fait?
Ça raconte un usage de l'espace public qui est basé sur l'appropriation, qui vient en partie de l'exiguïté des logements, la difficulté d'avoir son espace propre, et puis aussi qui parle du climat et ce plaisir de profiter de l'extérieur, notamment en début de soirée. Et là, on retrouve ce type d'usage dans tous les territoires méditerranéens. C'est une attitude volontaire face à la ville, cette réaffectation comme ça d'espace qui me plaît, moi. Il y a une dimension de l'ordre de la liberté. Et j'ai poursuivi ce travail ensuite dans d'autres territoires. Et en Europe, ce type d'espace sont absolument pas connotés de la même façon. Et finalement, ce sont des espaces qui sont plutôt des espaces dédiés à des activités souterraines, une forme d'illégalisme. Celui qui occupe l'espace public, il est connoté d'une manière négative, ce qui est absolument pas le cas dans ces espaces méditerranéens. Et en fait, l'idée, c'est une espèce de réflexion sur l'approche comparative, en fait, et cette impossibilité de porter un regard et d'établir des comparaisons sur donc là, on est sur des éléments architecturaux qui sont similaires et qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions et qui sont culturellement extrêmement différents. Et voilà, c'est le piège du documentariste, de jamais rentrer dans la comparaison et d'essayer de se détacher un petit peu de son référentiel d'origine.
Et vous parlez souvent de cette enfance en Haute-Savoie, à la campagne, qui peut-être vous a donné la sensation de ces espaces un peu marginalisés par rapport à la grande ville, par rapport à l'espace urbain. Est-ce que ça vient de là aussi, ce goût pour ces espaces un peu hors champ?
Je pense que ça m'a amené un fort sentiment de relégation. Je crois qu'on est on a une culture qui est profondément urbaine. La périphérie et la ruralité encore plus, on est relégué à l'écart des espaces de décision, à l'écart des lieux économiques. Et je crois que ça m'a amené très jeune à envisager la ville comme un matériau idéologique, politique. Un matériau qui raconte mon monde, finalement. Et je pense que cet ancrage dans la ruralité m'a aiguisé le regard sur la ville.
Nasser Abelhaza, vous montrez vos pièces en Algérie, vous allez y jouer, vous travaillez beaucoup là-bas. Et votre sœur Dalila, quand vous êtes allée jouer, a dit comme si, c'était comme si je jouais devant la famille en n'ayant jamais joué devant mes parents.
Oui.
C'était quoi cette sensation de se retrouver là-bas pour montrer les pièces?
Ah, c'était une sensation très trouble et très, 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 très forte parce que, en fait, ces familles qui ont quitté leur pays pour aller vivre à l'étranger, ils ont emporté avec eux le regard de leur famille, en fait. On a vécu en France en se demandant ce que la famille au pays pouvait en penser, quoi qu'on fasse d'ailleurs. Et en fait, nos parents se sont même pas certaines fois autorisé certaines choses parce que toujours dans cette dualité de mais qu'est-ce que on vit certes dans un contexte et une société différente, mais au pays qu'est-ce qu'ils en penseraient et de retourner comme ça, donc c'est une espèce de tension que d'un coup se défait complètement, de retourner jouer au TNA, Théâtre National d'Alger, et puis c'était autour de l'année de l'Algérie en France, donc très médiatisé. Moi, je sais que c'était un des moments les plus, que j'ai redouté le plus, parce que j'ai l'impression que c'était effectivement la famille élargie qui venait nous voir danser. Et en fait, il y a eu, c'était pas un moment très agréable, parce que on aurait pu croire, mais pas du tout, puisque ça mélangeait tellement de choses. C'est-à-dire que moi, pour avoir aussi bien dissocié ma vie professionnelle et puis ma vie de famille. D'un coup, tout se confondait. Et en même temps, il y avait cette proximité entre eux et nous, parce qu'ils savaient qu'on était algérienne, qu'on avait vécu aussi entre l'Algérie et la France, etc. Et en même temps, voir les pièces qui leur racontaient des choses qui leur semblaient tellement loin ou étrangères, ça créait une forme de distorsion entre nous. C'est-à-dire qu'on était proches et très loin d'eux en même temps. Et du coup, ils ne pouvaient pas poser sur nous le regard qu'ils auraient posé sur un travail entièrement étranger. Et en même temps, le fait qu'on soit algérienne, c'est comme si ça avait créé des attentes chez eux qui étaient contrariées. Donc c'était un moment très trouble et très... Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on y est retourné, ça n'a jamais été un rapport simple, en fait, avec les Algériens, par rapport à, en tout cas, à cet art, parce qu'ils ont, comme tu disais tout à l'heure, un regard extrêmement affûté sur tout ce qui les entoure. Mais la danse, c'est quelque chose de naturel pour eux. Ils savent tous danser. Ils ne comprennent pas qu'on puisse faire de ce langage festif, en faire quelque chose d'aussi abstrait ou de sophistiqué. Je pense qu'il y a, il y a ça aussi. Donc, il va falloir du temps avant de commencer à faire entendre que la danse est un art à part entière, etc. Donc c'était un moment très trouble où on a eu le sentiment d'être mis à découvert, comme ça, vis-à-vis de notre famille. Et puis en même temps, c'était un moment de réconciliation pour mes parents, parce qu'en fait, en voyant que la famille, était plutôt contente, voire un petit peu fière de nous voir nous produire à Alger, ça a comme donné... le consentement en fait de la famille à mes parents et qui ont à partir de ce moment-là vécu les choses de manière plus sereine.
Et en parlant d'espace, de danse et de corps, il y a une image qu'on a beaucoup vue ces dernières semaines, celle-là que j'ai apportée, qui est cette danseuse Mélissa Ziad.
On vous a déjà
posé la question.
On m'a dit
qui est en train de de danser dans la rue.
Oui, mais je pense que je vais dire des choses qui sont pas forcément très
pendant une des marches du vendredi.
Être sur pointe, dans les rues d'Alger, pour moi c'est pas le geste le plus libérateur qui soit, pas du tout. Donc je trouve, vous savez, la danse pour moi elle entretient un rapport complexe avec la société. Elle est en même temps c'est un art profondément naturel qui a de tout temps existé. Et en même temps, c'est l'art qui peut être le plus artificiel, le plus simulateur. Et je trouve que quand je suis arrivée à Alger en 2001 pour le travail, parce que j'y allais souvent avant, on nous a emmenés dans un studio étriqué comme ça, une sorte de conservatoire. Et je m'attendais à trouver de la danse, une vibration locale. Et en réalité, j'ai été confrontée à une jeune fille qui avait des pointes. Et puis... un petit tutu, et puis ils étaient en train de faire des portées poissons dans le studio de danse, et j'ai été choquée parce que je me suis dit mais en fait c'est le fantasme qui l'emporte sur la réalité. C'est-à-dire que le fantasme de la danse, c'est de mettre des pointes. La danse, il paraît que c'est libérateur. Moi, je pense pas que ce geste là le soit, mais elle peut être libératrice, mais pas de cette manière là c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui c'est pas une chose extérieure, c'est pas une chose qu'on affiche. Et quand j'ai rencontré d'ailleurs ces danseurs en 2001, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais vous pouvez pas pratiquer ce type de danse dans ce type de contexte. Si vous ouvrez un minimum les yeux sur ce qui vous entoure, les pointes, elles n'ont plus rien à faire ici, le classique non plus. La danse, elle s'ancre dans un contexte pour le dépasser, mais elle tient compte de la manière dont on est relié au sol, l'énergie des corps, le rapport aux éléments, etc. Et là, je trouve que c'est quelque chose d'une image un peu plaquée. Voilà, pour faire court, un peu plaquée, et c'est une posture. Ça n'est pas un geste libérateur du tout. J'ai été à Alger pendant les jours de manifestation et certains visages, certains chants, certains visages souriants, pour moi, étaient beaucoup plus synonymes de cette libération, enfin, ce qu'on espère être une libération, plutôt que ce mouvement qui perpétue le cliché de la danse, je trouve.
Est-ce que vous pourriez imaginer une procession, comme vous venez de le faire à Bobigny, et dans différentes villes à Alger ?
Oui, ce serait. D'ailleurs, cette procession, alors que je l'avais au départ un peu appréhendée à Bobigny.
Là, vous traversez la ville.
Et là, en fait, c'est la cité qu'on traverse. Et c'est une cité assez difficile, une grande dalle où il s'est passé des événements un peu durs aussi, ce que j'ai cru comprendre. Et au départ, je l'appréhendais parce que je me disais, mais il n'y a rien de moins naturel que d'aller au milieu de ce. De cette cité et puis d'amener un mouvement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai passé mon temps à dire aux amateurs avec qui j'ai travaillé, c'est que je leur ai dit, la danse peut être totalement artificielle et pas naturelle comme elle peut le devenir si elle est faite d'une certaine manière. Si le geste qu'on pose dans l'espace est un geste ouvert, en lien, qui n'est pas dans la représentation, alors il n'agresse pas. Moi, j'ai senti une forme d'agressivité au départ et elle est légitime, c'est-à-dire que de là où ils sont, leur mode de vie, les conditions dans lesquelles ils vivent, ils n'ont pas envie de voir un groupe de personnes qui vient déambuler. Mais il y a eu des petits moments comme ça où il y a eu un vrai contact entre les enfants qui étaient dans la cité, le groupe d'amateurs qui était très hétéroclite, les gens qui étaient à leurs fenêtres. Tout ça, à certains moments, ça se confondait et ça laissait entendre que, ce que m'a dit Hortense Archambault d'ailleurs, elle m'a dit que c'est peut-être possible. Donc oui, pourquoi pas ce type de choses pour... La danse doit créer du lien, elle s'affiche pas, en fait.
On sera parti des yeux qui ne voient rien pour creuser en soi et voir mieux et voir plus grand. Nacera Belaza vient de présenter à l'AMC 93 à Bobigny sa nouvelle création Le Cercle. Elle sera en tournée en mai à Bruxelles, et puis à l'étranger, et puis de retour à Nantes en décembre. Vous pouvez lire chez Actes Sud le livre Nacera Belaza entre deux rives de Frédéric Villemur. Karim Kahl fait partie de l'exposition Photographier Alger, c'est à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, et c'est jusqu'au 13 juillet. Mohamed Lamouri sort son premier album, Underground Rai Love. Il sera en concert le 12 juin à la Maroquinerie à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Bruno Mourlan et Laetitia Delgado. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits. هذيك هي نيتي